Tu écoutes un balado de Squat Télé-Québec.
Cœur de cristal, épisode 3, le géant de fer. Les deux apprentis ninja pédalent à leur max. Malgré qu'ils se déplacent légèrement moins vite, Sean est toujours à leur trousse. En sortant de la forêt, près de l'école, elles échappent à sa vue quelques instants.
Comment on fait pour s'en débarrasser? Il n'a pas l'air de vouloir lâcher le morceau.
Regarde, la fenêtre de l'école est ouverte.
C'est quoi le rapport?
On laisse nos vélos dans la haie, puis on rentre par la fenêtre. Il va jamais nous trouver.
T'es-tu folle? On va se faire pogner.
Mais non, qu'est-ce que tu proposes d'autre? Tu vas nous rattraper.
Je sais pas. Ah, toi pis tes mauvais coups. OK, d'abord.
Les deux vélos foncent droit sur la haie et les amis s'infiltrent dans l'école par la fenêtre ouverte. C'est méga stressant, mais heureusement, la classe est déserte.
Tu penses-tu qu'il nous a vus?
Je sais pas.
Eh ben, on dirait qu'on a notre réponse.
Regarde, on est dans le laboratoire de l'école.
De grandes tables sur lesquelles s'alignent des microscopes occupent la majeure partie de la salle. Au fond, des armoires vitrées présentent des dizaines de bocaux contenant plantes et petits animaux dans le formol. Juste à côté des filles, se trouve un faux squelette grandeur nature.
T'es tellement folle à Marie-Lise Fontaine, mais j'avoue que c'était vraiment drôle.
En tout cas, je regrette pas d'y avoir dégonflé ses pneus à lui.
Quelque chose me dit que c'est pas la dernière fois qu'on en entend parler, en tout cas.
T'as-tu entendu ça? Merde, on n'est pas tout seul dans l'école.
Emma traverse la salle de classe sur la pointe des pieds et regarde discrètement par la porte du corridor.
Fudge, c'est Monsieur Beaulieu. Il vient de rentrer dans la classe d'à côté avec sa mop.
Pas le concierge. C'est sûr qu'il va nous engueuler s'il nous trouve ici.
Il doit mopper toutes les classes. C'est clairement pas fait ici. On est mieux de pas rester là.
On peut pas retourner dehors. Sean est sûrement pas loin.
OK, mais faut sortir de la classe. Viens, la voie est libre.
Elles sortent dans le corridor sans faire de bruit. Amaryllis est sur le point de pousser la porte de sortie, mais elle remarque que son amie ne la suit pas. Elle est clouée devant la vitrine d'exposition des finissants.
Qu'est-ce que tu fais? Viens voir.
Saomaï est blême. Une fois à ses côtés, Amaryllis cherche ce qui retient son attention. Sao pointe alors du doigt une photo noir et blanc de la cohorte de 73. Derrière les élèves tout souriants se trouve un robot de 8 pieds. Le même robot. Leur robot. À ses côtés se tient une femme au regard perçant et aux longs cheveux noirs.
Comment ça qu'il est là?
Je sais pas. Je comprends pas.
Viens, j'ai une idée.
Emma les entraîne dans le local d'informatique. Elle tire le rideau et verrouille la poignée de porte.
Si sur la photo de l'école, c'est que ce robot-là, c'est pas un secret. Je te gage qu'on peut trouver de l'info sur Internet. Yes! Mon mot de passe est encore actif.
OK. Cherche robot plus Ansouronor. Mets des guillemets à Ansouronor.
Il y a plein d'affaires qui parlent des expos sciences de l'année passée.
Regarde plus bas. Clique sur celui-là. Celui qui s'appelle Iron Dominion Steel Corporation 1973. C'est la même année que la photo.
C'est un lien vidéo!
Aujourd'hui, 1er juillet 1973, la compagnie de la Iron Dominion Steel Corporation se propulse à la fine pointe technologique du 20e siècle.
À l'écran, un train s'immobilise à la gare de Lens-sur-Renard. Ce n'est pas le village actuel, mais les filles croient reconnaître les ruines qu'elles ont découvertes. Des employés de la gare s'évertuent à décharger d'un wagon cargo deux robots en chrome étincelant.
Ces automates sont complètement autonomes et viendront assister les ouvriers dans leur travail à la mine. Regardez comme ils sont beaux. Ces grands colosses de 8 pieds ont un cœur de quartz et la force de 10 hommes réunis.
L'écran montre maintenant un montage de plan où on voit les robots en train de faire diverses tâches dans la mine. Leurs mouvements sont lents et saccadés. Ils n'ont pas l'air très agiles.
Mesdames et messieurs, c'est un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité qui s'écrit sous nos yeux.
Fait que c'est des robots qui viennent de l'ancienne mine?
Il avait pas l'air très intelligent, en tout cas dans la vidéo.
Non, pis t'as vu, il était pas pareil. On dirait que celui qu'on a trouvé a été réparé plein de fois avec des vieilles pièces recyclées.
Tu penses qu'on devrait faire quoi maintenant?
Si les robots sont reliés à la mine, on devrait y aller. C'est le seul indice qu'on a pour l'instant, aussi bien le suivre.
Tu penses? Merde, c'est le concierge!
Qui est là? L'école est fermée, vous avez pas le droit d'être ici.
Viens-t'en, on sort par la fenêtre.
Sortez, j'appelle la police.
Ouch!
Les deux espionnes filent chez Vania pour lui raconter leur mésaventure et la découverte qu'elles ont faite. Accompagné de Charles le crapaud, le trio se rend pour la première fois sur le site de l'ancienne mine. L'endroit est plus intimidant que l'image qu'elle s'en faisait. Au pied d'une imposante falaise de pierre noire se trouve une entrée placardée qui devait s'ouvrir sur les profondeurs de la terre. Le trio observe les lieux à la recherche d'un indice quelconque.
C'est fou! Ça fait des dizaines d'années que la mine est fermée, puis il n'y a toujours pas de plantes qui poussent ici.
Ça fait froid dans le dos, cet endroit-là. Bon, ben, il n'y a rien ici. On s'en va.
Attends! Regarde ici! Il y a une trace de pied!
C'est pas une trace de pied. C'est rectangulaire, Sherlock. Allez, on s'en va. J'haïs ça ici.
Sauf que regarde, la trace est juste à côté de cette planche.
Joignant le geste à la parole, Amaryllis tire sur une des planches de contreplaqué qui scelle l'entrée. Le panneau n'offre aucune résistance et laisse entrevoir l'intérieur de la mine. Les trois amis se penchent devant l'ouverture, mais l'obscurité est trop opaque pour y voir quoi que ce soit. Les entrailles de la falaise ne laissent échapper qu'une haleine froide de pierre mouillée.
C'est clair que quelqu'un est passé ici pour cacher quelque chose.
Rentrer ou peut-être sortir?
On va juste regarder dans l'entrée un peu pour voir s'il y a d'autres traces.
C'est trop dangereux.
On a nos casques de bicycle. Qu'est-ce que tu veux qu'arrive?
Ben, je sais pas. Genre tomber dans un trou de 1000 mètres puis mourir dans d'atroces souffrances. On peut avertir les gardes-chasse si tu veux qu'ils fassent une enquête.
T'es-tu folle? On va pas amener les adultes là-dedans. C'est clair qu'on va juste se faire chicaner puis qu'on n'entendra plus jamais parler.
Les nerfs, Amaryllis. C'est drôle quand on joue à s'inventer des histoires pour jouer, mais là, c'est la vraie vie puis c'est dangereux une mine abandonnée. Si toi, t'as envie de te casser le cou, vas-y, mais pas moi.
Tu peux bien faire ta fine, mademoiselle qui voyage tout le temps. Moi, j'habite avec mes grands-parents dans une roulotte puis j'ai jamais quitté l'Anse-aux-Renards. Fait qu'excuse-moi de vouloir saisir la chance de vivre quelque chose de cool puis d'avoir un géant robot comme ami.
Voyons, tu penses que...
Il a quand même fallu qu'on torde un bras pour que tu viennes en camping. Comme si t'étais vraiment triste de partir découvrir le monde à la fin de l'été. Tu penseras même plus à nous dans ta nouvelle vie avec tes nouvelles amies cool. Puis nous, on va rester ici comme deux nouilles à qui arrive jamais rien.
Qu'est-ce que...
Va-t'en, c'est ça que tu veux.
Amma, arrête de...
Va-t'en!
Va chier, Amaryllis!
Dans un excès d'impulsivité, Saomai pousse le bras d'Amaryllis, écarte le panneau de bois et entre dans la mine sous le regard interdit des deux autres. Elle a les yeux pleins d'eau.
Oh non! Saomai, attends! Je voulais pas dire tout de suite!
Oh non, je la vois déjà plus! Qu'est-ce qu'on fait?
Ben, on n'a pas le choix, faut la suivre!
À l'intérieur, c'est l'obscurité complète. Sao est en furie. Amaryllis comprend rien. Quitter l'Anse-aux-Renards, c'est le plus grand déchirement qu'elle ait vécu jusqu'à présent. Elle entend les deux filles derrière elle et accélère le pas.
Saomai, attends! J'ai ma lampe de poche!
Saomai, qui a un peu d'avance, enjambe les pierres qui encombrent le chemin sans trop voir où elle s'en va. La lampe d'Ama éclaire faiblement jusqu'à elle et les ombres de toutes les pierres sont de la noirceur d'une nuit sans lune. Lorsque son pied frappe un rocher de la taille d'une voiture, elle l'escalade et à l'aveuglette se laisse glisser dans la pente de l'autre côté. Leur amie s'enfonce dans l'obscurité, glissant contre la paroi rocheuse. Complètement terrorisée, elle tente de s'agripper, mais ne parvient qu'à s'érafler contre les pierres et à se cogner partout.
Elle est tombée là-dedans!
On voit pas le fond, faut faire quelque chose!
Saomai! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Faut aller chercher de l'aide!
On n'a pas le temps. Faut trouver un moyen de descendre.
Amaryllis éclaire les lieux à la recherche d'une idée. Saomai est tombée pile au mauvais endroit, car on peut aisément faire le tour de la crevasse. Le faisceau de sa lampe balaie les installations d'une grande structure de métal, puis il s'arrête sur un levier électrique abaissé.
C'est peut-être la switch pour allumer l'électricité?
Vite, essaye!
Les vieilles lampes suspendues sur les murs s'allument. Les amis se trouvent dans un endroit où le tunnel s'élargit et où la voûte est assez haute pour accueillir une structure de métal de 3 étages de haut.
Faut trouver un moyen de descendre.
Saomai a atteint le fond. Son corps est meurtri et elle est prise de nausées. Elle a la bouche sèche. Pendant un moment, elle a cru que c'était la fin pour elle. Une douleur intense lui martèle le crâne. Son appareil auditif gauche émet un son strident qui lui déchire le tympan. Machinalement, elle enlève les deux appareils et les met dans sa poche. Tout étourdie, elle s'adosse contre la paroi. Saomae tente de discerner quelque chose dans son environnement. Elle ne voit rien. Son cœur bat à 1 000 000 à l'heure. Se calmer. Elle doit d'abord se calmer. Elle prend de lentes respirations. De lentes respirations. Alors qu'elle s'apaise un peu, elle a l'impression d'entendre quelque chose. Un tout petit son distant. Sao ouvre ses yeux et en cherche la provenance, mais rien. Le silence est redevenu total. Elle referme les yeux.
Ah, c'est dans ma tête.
Cette fois, le son est plus fort, plus distinct. Un peu comme une présence rassurante qui serait tout près de Saomae.
Est-ce que le son va encore disparaître si j'ouvre mes yeux?
Ce qui apparaît devant elle est quasi irréel.
Mais...
on dirait que des centaines, voire des milliers de particules lumineuses flottent dans l'air. Des petites gouttes de lumière qui essayent en bande dans le courant d'une eau invisible.
On dirait que la lumière sort de la pierre.
Elle est complètement absorbée par le spectacle. Sao passe sa main dans le banc de gouttes et elle se met à danser entre ses doigts écartés. Hypnotisée, elle saisit machinalement la gourde qu'elle garde dans son sac et en boit quelques gorgées. Puis remet le bouchon et la range tout en restant captivée par le spectacle. Avec le temps, elle arrive à discerner les reliefs de la galerie où elle se trouve, rien qu'en observant le chemin des particules.
C'est trop beau!
Pendant ce temps-là, Amaryllis et Vania ont trouvé la cage d'extraction, un ascenseur en métal qui permet d'atteindre les autres niveaux de la mine.
J'espère que ça marche encore, cette affaire-là!
Allez, baisse le levier pour descendre! On n'a pas de temps à perdre!
Amaryllis a les larmes aux yeux. Elle se sent coupable de ce qui arrive à son amie. Et si elle était blessée, ou pire, elle n'ose pas y penser, pourvu qu'elle la retrouve. Saomae est toujours en train de contempler le spectacle quand un faisceau lumineux l'éblouit de plein fouet.
Hello! Saomae, est-ce que ça va? Oh my God! Le ravin est juste devant toi!
Elle plisse les yeux devant la lumière. Elle vient de se rappeler qu'elle n'a pas ses appareils auditifs. Le son des gouttes de lumière est pourtant si clair. Elle s'empresse de les remettre pour ne garder que celui de droite qui fonctionne toujours bien.
Parlez pas trop fort. Vous allez les effrayer.
De quoi tu parles? Mon Dieu, Sao, t'es toute graffinée.
Donne-moi la main, j'ai peur que tu tombes. Viens, on remonte.
Attendez. Je veux savoir où vont les gouttes.
Quelles gouttes? Y a pas d'eau ici.
Attention, tu peux tomber. Viens, on remonte.
Mais...
elle remarque alors, éclairée par les lampes de ses amis, le gouffre qui s'ouvre devant elle. Elle est prise d'un vertige intense et subit. Elle n'a jamais frôlé la mort avant. Plus tard, tandis que la nacelle commence à s'élever, Saomae regarde derrière elle, mais elle ne voit aucune trace de poussière de lumière.
Je suis désolée, Sao.
Merci. J'ai eu tellement peur en tombant là-dedans.
Une chance que t'avais ton casque.
Je m'excuse, Sao. J'avais pas peur de parler comme ça. J'ai eu tellement peur qu'il te soit...
C'est correct. Mais sache que quitter Lance-Renor, c'est la dernière chose que je veux. Ça me fait tellement peine.
Moi aussi, je veux pas que tu parles. J'arrête pas d'y penser.
En plus, mes parents m'avaient promis en venant à Lance-Renor que ce serait notre dernier déménagement.
En tout cas, la tête de mort sur ton casque, elle a l'air plus cool, maintenant qu'elle a une grosse graphine qui lui traverse l'œil.
Les trois amis se font un immense câlin. Puis elles observent les alentours plus attentivement. Au niveau du sol, une petite pièce carrée devait servir de bureau au chef du chantier minier. Il contient une vieille machine distributrice de boissons, des tables et un grand babillard avec des consignes de sécurité, ainsi qu'un vieil horaire de travail.
Écoutez, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que quelqu'un est en train de rentrer dans mine. Penses-tu que c'est la personne qui a pris le robot?
Je sais pas, mais on peut pas rester là. Faut se cacher.
Les trois amies se réfugient dans la structure métallique. Le plus discrètement possible, elles escaladent la poutre près du mur pour s'accroupir au deuxième étage, tout près du bord.
Oh, on dirait que c'est... le robot!
Le géant de fer vient d'entrer dans la lumière des lampes que les filles ont allumées. Ses yeux ronds, à présent illuminés, sont la seule manière de le suivre dans l'ombre. Il passe sous la structure et s'enfonce plus profondément dans la mine.
Il est vivant!
Vous rendez-vous compte? Vivant!
Oui, c'est fou. Je pensais jamais que ça se pouvait.
Est-ce qu'on devrait aller lui dire bonjour?
Faut faire attention. On sait pas c'est quoi qu'il veut, là.
Selon les lois de la robotique, les robots sont pas censés blesser les êtres humains.
Ouais, mais ça m'étonnerait qu'il ait lu les romans d'Isaac Asimov.
Quoi? C'est pas une vraie loi obligatoire?
Je pense pas, non.
Mais là, on peut pas le laisser tout seul. Si c'est nous qui l'a réveillé, on a des responsabilités.
C'est pas exactement comme ça que l'oncle de Peter Parker l'aurait dit, mais on peut peut-être le suivre pour voir ce qu'il fait.
Les trois complices descendent de leur perchoir et se mettent à suivre le robot, de loin. L'automate s'enfonce dans la galerie principale. Elle le perd de vue au tournant du couloir. La manœuvre d'espionnage se complique. Se plaquant contre le mur pour pouvoir regarder discrètement, les trois amis risquent un coup d'œil furtif. Ils sont surprises par tant de beauté. Le plafond s'est effondré et laisse passer la lumière du jour. Au sol, des plantes poussent sur le monticule de gravats venu d'en haut. Un ruisseau venant de la surface tombe en une petite chute sur les pierres avant de s'enfoncer plus profondément dans la mine, et un petit papillon blanc virevolte devant la scène. Le spectacle est magnifique et le robot est là. Couvert lui aussi de mousse et de plantes, il semble scruter les pierres.
Qu'est-ce qu'il fait?
Je crois qu'il cherche quelque chose.
Sao, as-tu remarqué comment il bouge?
Ouais, ses mouvements sont plus fluides que dans la vidéo qu'on a vue à l'école. Ça m'a frappé moi aussi.
Fais attention pour pas qu'il nous voie.
Pourquoi tu cognes ta courte contre le mur?
C'est pour moi. Vite, vite, on sauve.
Quoi? Ah ouais, Dania, grouille!
Cœur de cristal, un concept de Francis Gélinas produit par Couleur.tv pour Télé-Québec. Avec les voix de Justine Pierre, Zoé Croteau et Gabriel Chaumel. Conception sonore, Jean-François Bertrand Sauvé. Musique originale, Davy Simard.
Écoute tous nos balados sur balado.téléquébec.tv.